Le journal Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour. Le mot d'ordre des gilets jaunes, tous à Paris aujourd'hui et certains l'annoncent sans détour. Ils n'ont pas l'intention de rester pacifiques. Nous irons à Bercy dans l'un des deux rassemblements autorisés dans la capitale avec notre reporter Yann Gallic et avec notre invité Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP Police FO. Nous verrons qui sont ces ultra-jaunes redoutés par le gouvernement. D'autres gilets jaunes cherchent des moyens plus populaires pour prolonger cette mobilisation inédite. Nous irons dans l'ouest de la France, dans un jardin partagé. La mobilisation continue aussi pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Radio France s'associe ce soir au concert exceptionnel organisé par France 2 aux Invalides. Stéphane Bern ne comprend pas la polémique autour des dons, nous l'entendrons. Alors que le maire de Rodez, lui, s'agace un peu, il a aussi une cathédrale à restaurer. Dans ce journal, nous irons en Ukraine pour une campagne présidentielle marquée par la politique spectacle. Aux États-Unis, où le drame du lycée de Columbine il y a 20 ans semble inspirer encore des esprits dérangés. Et puis nous irons à Rouen pour la Fed Cup de tennis et au cinéma pour la prescription culturelle de ce samedi, Working Woman.
France Inter.
Pour les Gilets jaunes, c'est l'acte 23, mais c'est aussi le deuxième ultimatum adressé à Emmanuel Macron. Le président de la République répondra à la crise finalement jeudi prochain lors d'une conférence de presse. Ce midi, Emmanuel Macron reçoit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à l'Élysée pour un point de situation sur les manifestations. Le gouvernement redoute des violences à Paris principalement. Depuis ce matin, des contrôles préventifs sont menés à la sortie des gares ou au péage. Les trottinettes électriques ont été enlevées près des champs Élysées, secteur interdit, tout comme les halles et les abords de Notre-Dame. Alors deux défilés sont autorisés. Le premier est parti de la basilique de Saint-Denis pour rejoindre à Paris le campus de Jussieu. Le deuxième prévoit de rallier la place de la République depuis Bercy. C'est dans ce cortège que vous vous trouvez, Yann Gallic. Bonjour.
Bonjour.
C'est plutôt calme pour le moment ?
En effet, plusieurs milliers de gilets jaunes venus de toute la France se sont donné rendez-vous devant le ministère de l'économie ce matin. Dans une ambiance relativement calme, ces gilets jaunes espèrent une journée de mobilisation exceptionnelle pour maintenir la pression sur Emmanuel Macron et son gouvernement, à l'image de Jocelyne, enseignante dans un collège de la Marne.
Le ministère de Bercy, c'est le verrou de l'austérité que veulent nous imposer les gens de l'Union européenne actuelle. Parce que je suis pas contre l'Union européenne, mais effectivement, il faut sortir des traités actuels qui imposent l'austérité et qui étranglent tous les peuples européens. Et c'est absolument symbolique que la manifestation aujourd'hui commence ici. Et elle continuera parce que la révolution dans les têtes, la révolution de la conscience populaire ne s'arrêtera jamais.
Un impressionnant dispositif policier a été déployé le long du parcours de cette manifestation et dans tous les points sensibles de la capitale avec, vous le disiez, des fouilles préventives, même si les gilets jaunes que nous avons croisés dans ce cortège ont l'intention de défiler pacifiquement.
On ne va pas aller à l'affront, on n'a pas envie de se battre avec ces gens-là, les gens de la police, parce qu'on sait très bien qu'ils sont là pour défendre, on les comprend. Mais qui nous tape pas dessus non plus, parce qu'on n'est pas là pour se battre. Et puis on a toujours été pacifistes, et il n'y a pas de personne qui veut le casser.
Le cortège vient de se mettre en route pour rejoindre la place de la République, sans incident majeur pour l'instant.
Merci Yann Gallic avec Yves Lehors à la technique. Des violences sont aussi redoutées à Nantes où pour la première fois en 5 mois, la manifestation des Gilets jaunes est interdite cet après-midi. Décision de la préfecture de Loire-Atlantique pour tenter d'enrayer la casse. Alors avec nous au téléphone, Yves Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Vous allez nous expliquer qui sont ces ultra-jaunes que le ministère de l'Intérieur redoute aujourd'hui. Mais d'abord, à cette heure, quelles sont les remontées d'informations dont vous disposez ? Quelle est la physionomie de ces rassemblements ?
La physionomie se traduit par des contrôles en amont, comme vous l'avez déjà dit à l'antenne, tel que nous on le souhaitait et tel que c'est mis réellement en place aujourd'hui après avoir été fait le 8 décembre dernier. A priori, d'après les retours de terrain, des personnes tendues, des personnes très très remontées, dirais-je, qui, on le sent, mes collègues ont senti ce matin de très bonne heure, qui avaient une frange radicalisée dans tout ça, et une frange radicalisée parmi les gilets jaunes. Et alors, c'est ce qu'on craint le plus.
D'accord. Alors, depuis quelques semaines, et particulièrement le 16 mars dernier, ce sont effectivement les activistes qu'on appelle Black Bloc qui sont venus affronter la police. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui ils sont, comment ils agissent ?
Bah, ces Black Blocs agissent, ils arrivent, je dirais, comme le commun des mortels sur Paris et ont avec eux des effets qui les permettent de changer. Pour, effectivement, tel qu'ils se définissent Black Bloc, s'habiller tout de noir. Et derrière, ces gens-là ont aussi une capacité à préparer leurs actions en amont. Ils n'arrivent pas, je viens d'avoir un message à l'instant que des collègues d'une brigade anticriminalité sur Paris avaient intercepté 3 d'entre eux qui étaient particulièrement équipés de cocktails Molotov, de banderoles anti-flics. Mais ça, je dirais que c'est maintenant quelque chose de commun et avec des, surtout des cocktails Molotov, des pétards, donc qui venaient manifestement pour des coups. Et ils avaient tout ça dissimulé dans un sac de sport marqué sapeur-pompier. Donc, vous voyez, c'est toute une technique pour tenter de passer à travers le maillage des contrôles. Et ceux qui préparent en amont, c'est-à-dire la veille ou l'avant-veille, qui ont des points de dépôt de leurs effets et de leurs cocktails Molotov, qui viennent s'équiper directement après être passés, je me répète, comme le commun des mortels, à travers les barrages de préfiltrage.
Et alors, ces Black Blocs qu'on avait vus à l'œuvre, notamment lors des manifestations contre la loi travail à Paris, maintenant, ils ont inspiré ou formé des manifestants gilets jaunes ?
Tout à fait. C'est ce que moi j'appelle les Black Blocs par sympathie. Mauvaise sympathie, mais sympathie quand même, à savoir des gilets jaunes qui étaient allés à la limite de la rupture. On reste dans la manifestation pacifiste où on verse dans la radicalisation. Et derrière ça, les Black Blocs ont mis toute une stratégie. C'est-à-dire, ils ont mis des stratégies, ils ont dressé des toiles d'araignée autour des commissariats où certaines personnes avaient été interpellées pour justement les endoctriner à la sortie, ou encore à la sortie des tribunaux de grande instance après les comparutions immédiates de certaines personnes interpellées lors des manifestations. Et puis, en dehors de tout ça, vous savez, quand vous avez quelques meneurs des Gilets jaunes qui parlent de prendre d'assaut l'Élysée, d'autres qui disent qu'il faut casser, d'autres qui viennent provoquer, comme ce fut le cas samedi dernier à Toulouse, au contact direct de mes collègues de CRS, tous ces gens-là, sans limite, n'ont même pas besoin aujourd'hui d'être endoctrinés pour tomber dans la violence. Et j'entends même à l'antenne tout à l'heure, on vient manifester de façon très pacifique, mais il faut pas que des flics nous tapent dessus. Mais les flics ne tapent pas dessus pour avoir le plaisir de taper dessus. Les flics ont des consignes très strictes et interviennent dès lors il y a des regroupements prétendus et réputés devenir violents. C'est ça le schéma aujourd'hui. Que doit-on faire? Laisser casser parce que certains prétendent être des pacifiques ou des pacifistes avérés. Et alors que, in fine, on s'aperçoit qu'on a eu...
C'est pas l'option retenue aujourd'hui, apparemment. La police a prévu des dispositifs mobiles. Merci beaucoup, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, d'avoir été dans notre journal. Ce mouvement de protestation inédit des Gilets jaunes est certes plus réduit qu'au début, mais il dure et il change de forme aussi. On voit moins de Gilets jaunes sur les ronds-points évacués par la police, mais les anciens occupants inventent d'autres modes d'action, comme à Donge, en Loire-Atlantique, où c'est dans un jardin partagé que les Gilets jaunes se retrouvent désormais, Anne Patinec.
Ils sont une dizaine à avoir répondu présent pour réceptionner la cabane qui leur permettra de ranger leurs outils. Il y a 5 mois, ils ne se connaissaient pas. Les plus expérimentés apprennent aux néophytes comme Florence.
Je suis une novice. Je découvre. C'est même plus des copains ou des copines, ça devient des amis. Mais non, je ne pensais pas il y a 5 mois en arrière que le mouvement pouvait créer ça derrière.
La parcelle de 600 mètres carrés appartient à Julie et Nicolas. Ils ont eu l'envie de la partager dans l'idée de favoriser l'autosuffisance alimentaire, un sujet qui leur tient à cœur.
On a commencé à planter les pommes de terre, les oignons, les échalotes, l'ail, les fraises, des framboisiers, des groseilliers. Et voilà. Et le reste, il faut attendre que les saintes glaces soient passées, donc le 15 mai.
Comme certains, Fabienne, qui vient d'une commune voisine, possède déjà un potager, mais pour elle, il est important de montrer que les Gilets jaunes savent être constructifs.
On a des projets, on a des choses bien à faire, on a des idées. On se retrouve, on n'est pas tout seul chez soi, et on se retrouve là en groupe, ça fait du bien. Ça nous redonne le sourire. Moi, quand je sais que je dois venir ici, voilà, j'ai la pêche.
Et parmi certains gilets jaunes et partis de gauche aussi, ce qui passe mal en cette semaine marquée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est justement l'ampleur des dons qui affluent pour reconstruire la cathédrale. Près d'1 milliard d'euros sont déjà annoncés. À Rodez, le maire socialiste Christian Técèdre s'est un peu étranglé en voyant sa camarade Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, sortir le carnet de chèques pour Notre-Dame de Paris, car la région n'a rien versé depuis 2 ans pour les travaux de Notre-Dame Notre-Dame de Rodez, qui sous son impressionnante stature de grès rose a bien besoin aussi d'être restaurée.
Le lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a des pierres, deux petites pierres, enfin petites, pas si petites que ça, puisqu'elles font plus d'un kilo, qui sont tombées de la cathédrale. Bon, faut-il attendre une catastrophe? Enfin, moi, j'essaye de le regarder objectivement. Je suis pas là pour faire la guerre avec la région. Je suis maire de Rodez, n'importe quel maire de Rodez, si c'était n'importe quelle personne aujourd'hui, il sentirait qu'il y a une égalité, qu'il y a iniquité. Moi, ça me choque. Franchement, ça me choque. C'est bien qu'elle ait donné 1,5 million à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Moi, je conteste pas du tout ce qu'elle a fait. Je dis qu'eux, ils sont capables en 24 heures de réagir, alors que nous, au bout de 2 ans, on a eu une fin de non-recevoir. On m'a opposé le fait que aujourd'hui, la région n'intervenait pas sur les cathédrales propriétés de l'État. Je dis qu'on n'est pas traité pareil à Rodez. Mais voilà, c'est tout. Je le note, je le porte à la connaissance des gens pour alimenter le débat.
Christian Tessèdre, le maire de Rodez, au micro de France Bleu Occitanie. Ce soir, au profit de la restauration de Notre-Dame de Paris, un grand concert est organisé par France 2 aux Invalides. Radio France est associée avec l'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, qui joueront bénévolement à côté de stars de la musique classique et de la chanson, Benabar, Angélique Kidjo, Laurent Voulzy ou Slimane notamment. Une soirée co-présentée par Stéphane Bern, qui est aussi chargé d'une mission de préservation du patrimoine. Invité ce matin sur France Info, il s'est dit agréablement surpris par cet élan de générosité, beaucoup moins par la polémique.
Il ne m'appartient pas et je n'ai pas les compétences pour vous dire combien d'argent il faudra. Ce qui est important, c'est cet élan de solidarité qui se manifeste. Vous savez, c'est pour ça qu'on a changé un peu le braquet au début. On voulait faire une soirée d'appel aux dons parce qu'on pensait qu'évidemment, ça allait être difficile de récolter de l'argent pour la Fondation du patrimoine ou pour le site mis par le ministère qui s'appelle rebâtir-notre-dame-de-paris.fr. Et en fait, l'argent afflue du monde entier, pas seulement les grandes fortunes. Est-ce que vous savez que la Fondation du patrimoine a récolté cette semaine 20 millions d'euros de petits donateurs?
Pourquoi
de
gens... les gens donnent à votre
Mais les gens donnent parce qu'ils ont le sentiment que c'est leur histoire qui part en flamme, que c'est leur civilisation, que c'est ce qui les constitue en tant que nation française. Et merci à ceux qui se montrent généreux. Parce que, après tout, ceux qui donnent des leçons, c'est ceux qui n'ont pas ouvert leur portefeuille pour donner 1 euro ou 2 euros. Moi, j'ai eu des petites filles autour de moi qui ont donné 5 euros. Toutes leurs économies, et c'est peut-être un symbole de notre civilisation qui a failli partir en flammes. J'espère en ce week-end pascal qu'il y aura une résurrection et qu'on s'en sortira.
Et sur France Inter, Guillaume Gallienne vous propose à 18h une émission spéciale, un voyage littéraire dans l'imaginaire des cathédrales.
Le journal de 13h sur France Inter.
En Ukraine, c'est dans un stade olympique que s'est déroulé hier soir à Kiev le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Un spectacle à la mesure de cette campagne inédite qui voit s'affronter le président sortant Petro Porochenko et le comique Volodymyr Zelensky. Ce dernier est en tête des sondages, mais novice en politique, l'exercice d'hier n'a pas tourné à son avantage, selon notre envoyé spécial à Kiev, Nathanaël Charbonnier.
En foot, on parlerait d'une victoire à l'extérieur. On attendait l'homme de télévision Zelensky. Et on a eu droit à un show de son adversaire, le président sortant, Porochenko.
Je vote Porochenko et Porochenko seulement parce que je veux que l'Ukraine soit un pays européen.
Porochenko vainqueur, il faut dire que l'homme est un vieux renard politique. Il est apparu combatif et sûr de lui, alors que Zelensky beaucoup moins.
Parce qu'un candidat qui lit ses réponses avec un papier n'est pas digne de notre peuple héroïque.
Mais la victoire d'un soir n'est pas forcément celle de l'élection, car si Zelensky, le comique, ne connaît pas bien ses dossiers, il garde toutefois un réel atout, celui de la probité, capable de lutter contre la redoutable corruption en Ukraine. Et cet homme d'expliquer que c'est à cause de la corruption qu'il y a autant de problèmes, qu'il croit que la guerre serait déjà terminée s'il n'y avait pas de corruption, celle qui profite aux politiques, et de conclure, je suis sûr que si on lutte contre la corruption, tout changera et notre vie sera meilleure. Et celui qui à ses yeux représente cette lutte s'appelle Volodymyr Zelensky. Alors il n'a peut-être pas gagné le débat hier soir, mais il semble déjà avoir gagné le cœur d'une majorité d'électeurs. À Kiev, Laurent Macchietti, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Aux États-Unis, c'est un triste anniversaire qui est commémoré aujourd'hui, celui de la tuerie de Columbine. Il y a 20 ans, deux adolescents ouvraient le feu dans leur lycée à Littleton, Colorado, faisant 13 morts avant de retourner leurs armes contre eux. Triste anniversaire aussi car des tueries, il y en a eu d'autres. L'école primaire de Sandy Hook en 2012 ou le lycée de Parkland l'année dernière. Et ces drames continuent de fasciner des individus dérangés. À Washington, Grégory Phillips.
Mercredi dernier, le lycée de Columbine a été fermé par mesure
mesures de sécurité, tout comme une vingtaine d'autres établissements du secteur, parce qu'une jeune femme de 18 ans, armée et considérée comme extrêmement dangereuse, avait menacé les écoles de la région de Denver. Après une traque de 24 heures, Sol Pais s'est suicidée. Et ce, trois jours avant la date anniversaire de Columbine, le FBI a expliqué qu'elle avait développé une fascination pour le massacre d'il y a 20 ans. À l'école primaire de Sandy Hook aussi, dans le Connecticut, où 26 personnes, dont 20 jeunes enfants, ont été abattues en décembre 2012 par un individu armé, l'établissement a été l'an dernier la cible de menaces le jour anniversaire du drame. Une alerte à la bombe, tous les enfants ont dû être évacués, finalement sans incident. Aux menaces s'ajoute parfois la diffamation. À Sandy Hook, les parents des victimes font depuis le drame l'objet des pires rumeurs. Des complotistes américains expliquent sur les réseaux sociaux que la fusillade du 14 décembre a été inventée. Pour avoir dit que les parents en pleurs étaient des acteurs, le créateur du site internet InfoWars, Alex Jones, est maintenant poursuivi en justice. Mais les adeptes de la théorie du complot ont continué à harceler ses familles, accentuant encore un peu plus leur douleur. Le père d'une petite victime de Sandy Hook a fini par se donner la mort le mois dernier. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
En Irlande du Nord, la police a interpellé ce matin deux jeunes hommes de 18 et 19 ans dans l'enquête sur la mort de la journaliste Lyra McKee. Elle a été tuée par balle dans la nuit de jeudi à vendredi après des émeutes à Londonderry. Du tennis cet après-midi avec un gros défi pour les Françaises qui disputent la Fed Cup à Rouen. Pour les demi-finales, le capitaine Julien Beneteau a convaincu Caroline Garcia de rejoindre les Bleus. Mais à 14h, c'est d'abord Kristina Mladenovic qui affronte la Roumaine Simona Halep, numéro 2 mondial. Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour Sarah.
C'est un choix audacieux côté français.
Oui, mais un choix logique, puisque si le choix de titulariser Kristina Mladenovic pour ce premier simple face à la numéro 2 mondiale et tenante du titre à Roland-Garros, Simona Halep, paraît comme un pari audacieux, eh bien Julien Beneteau s'appuie sur deux choses. D'abord, Kristina Mladenovic a plutôt bien réussi face à Simona Halep dans sa carrière. Les deux joueurs se sont affrontés à 5 reprises et Simona Halep n'a gagné que 2 fois. Kristina Mladenovic a d'ailleurs un bilan positif puisqu'elle a battu la Roumaine 3 fois. Et puis sur terre battue, hein, la surface qui servira pour ce week-end dans cette demi-finale de Fed Cup, Kristina Mladenovic avait accroché il y a 2 ans Simona Halep au tournoi de Madrid, ne perdant qu'en 3-7 après un match plutôt serré. Donc voilà pourquoi Kristina Mladenovic, qui n'avait pas joué les quarts de finale à Liège lors du dernier tour, est titularisée aujourd'hui. Et puis il faut savoir aussi que si Kristina Mladenovic réussit encore à accrocher Simona Halep, eh bien ça pourrait ouvrir des perspectives à Caroline Garcia, qui jouera le deuxième simple de la journée.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Début du match donc à 14h. Il y a aussi du rugby cet après-midi avec 2 duels franco-britanniques en Challenge Cup. La Rochelle face à Sale, 18h30, et à 21h, Clermont reçoit les Harlequins de Londres. La prescription culturelle de ce samedi, Working Woman, un film engagé sur le thème du harcèlement au travail. Il est signé de la réalisatrice Michal Aviad, qui était connue plutôt pour ses documentaires jusqu'ici. Elle met en scène le quotidien d'une jeune israélienne harcelée par son patron entre la peur de parler et le désir de réussir. Ce film coup de poing explore bien des zones grises, Corinne Pellissier.
Il y a parfois des sentiments que seule la fiction permet de faire passer, l'ambiguïté d'un geste ou d'un regard que l'on tolère, la crainte de tout perdre ou au contraire l'envie de réussir. Des sentiments qui ne s'expliquent pas et qui conduisent bien souvent les victimes de harcèlement à rester silencieuses, comme Orna, cette jeune mère de famille ambitieuse que l'on retrouve tiraillée ici entre un mari macho criblé de dettes et un patron sympathique mais un peu collant. Dans son nouveau film Working Woman, Michal Aviad filme avant tout les gestes et les non-dits, toutes ces zones grises, les jeux malsains, les avances que l'on repousse, sans jamais complètement les dénoncer. Car la frontière ici s'annonce bien mince entre la bienveillance de celui qui croit découvrir un talent et le regard appuyé de l'homme séduit par le sex appeal d'une toute nouvelle collaboratrice. Une relation complexe qui peu à peu cède la place à la culpabilité puis à la colère. Une banale histoire de harcèlement incarnée par une femme ordinaire, loin du mouvement MeToo et des stars qui accusent.
En ce week-end de Pâques, c'est un chassé-croisé des vacances de printemps et ça coince un petit peu sur les routes. Bonjour Armelle Balagog.
Bonjour.
Alors, où est-ce que ça coince précisément en ce moment ?
Alors sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie, de Paris à Pont-l'Évêque en passant par Rouen, beaucoup d'automobilistes empruntent aussi l'autoroute A29 vers Honfleur. Le trafic est donc très ralenti. La 6 et la Nationale 118 sont en rouge au départ de Paris. La 11 jusqu'à Angers et la 10 jusqu'à Bordeaux sont en orange. Et la circulation se fait avec des à-coups sur l'autoroute A63 entre Bordeaux et les plages d'Arcachon. Et dans la vallée du Rhône, vous êtes à l'arrêt sur la 7 entre Montélimar et Orange. Et ça coince aussi sur la entre Aix-en-Provence et Salon de Provence en remontant vers Orange.
Merci beaucoup Armel Balogog au PC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Mais la météo surtout avec Jean-Michel Golinski.
Des températures quasi estivales ce week-end, parfois jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales. Il fera 21 près de la Manche, de la Méditerranée et de l'océan, 23-25 en général sur les autres régions, avec dans l'ensemble un soleil rayonnant aujourd'hui, demain et lundi. Cet après-midi, on va remarquer un ciel voilé du golfe du Lion à la Côte d'Azur et sur la Corse. Un temps parfois plus variable, avec possibilité d'ondées orageuses entre la Vendée, le Val-de-Saône, la Gironde et l'Auvergne, également sur les Pyrénées. Demain, la stabilité va s'élargir au quart sud-ouest. Elle va basculer lundi vers la Méditerranée. Notez qu'à partir de demain, le vent d'est va se renforcer sur le bassin méditerranéen avec des rafales approchant les 100 km à l'heure, notamment sur les Caps Corses, et que ce week-end, le vent d'autant va rester sensible.